Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Claire, bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football oppose en ce moment même le Sénégal à l'Algérie. Eric Manirakiza sera avec nous pour ouvrir ce journal. Également à la une de l'actualité, au Soudan, report des discussions sur l'accord de partage du pouvoir. En Afrique du Sud, l'ex-président Zuma ne veut plus coopérer à l'enquête sur la corruption durant son mandat. Et puis demain, le 20 juillet, c'est le 50e anniversaire de la mission Apollo 11 sur la Lune. Mais tout de suite, le journal de la CAN.
Oui, Claire, merci Eric avec vous. Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue dans ce journal de la CAN 2019. Contre toute attente, l'Algérie a marqué dès la première minute du jeu. Les Fennecs conservaient donc un but d'avance, mais ce n'est pas encore fini. Les Lions de la Teranga ont la capacité de répondre à ce but encaissé. On connaîtra à la fin de la rencontre le successeur du Cameroun, vainqueur de la CAN 2017 au Gabon. C'est d'ailleurs Samuel Eto'o, le Camerounais, qui a posé le trophée dans le stade. Avant l'entrée des deux équipes sur le terrain, la finale de cette première édition à 24 équipes se joue présentement au stade international du Caire. Je rappelle les équipes, c'est l'Algérie contre le Sénégal. Pour parler de ce choc, direction tout de suite la capitale congolaise à Kinshasa pour retrouver notre correspondant Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale congolaise. On essaie de joindre Thierry. Nous sommes à la 15e minute de la mi-temps. Thierry, vous êtes là, vous nous entendez. Bonsoir. Voilà, on approche la mi-temps et le score, je le rappelle, 1-0 en faveur des Algériens. Quelle lecture faites-vous déjà de cette demi-heure de jeu? Thierry, je pense que nous avons perdu Thierry Kambundi qui nous suivait depuis Kinshasa. Le score est toujours 1-0 partout. Un match très disputé et le stade est plein, contrairement à d'autres matchs de la CAN. On se rappelle des foules qu'on a vues ce soir lorsque l'Égypte, l'équipe hôte, était toujours dans la compétition. On essaie toujours de joindre Thierry Kambundi pour nous dire ce qui se passe à Kinshasa. À Kinshasa, c'est la capitale du football. Les Congolais, les aéros à l'époque, comme on les appelle, aiment beaucoup le ballon rond. Donc c'est un événement continental qui est largement suivi dans tous les pays. Thierry, vous êtes là. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, l'ambiance est totale à Kin.
Oui, les Kinois sont amoureux du football. Ils sont en train de regarder cette finale avec beaucoup d'attention, justement. Donc voilà, l'attention est tournée vers la finale ici à Kinshasa. Les micros sont remplis de monde. Ici, je suis au centre-ville, justement, où beaucoup de gens sont en train de suivre cette grande finale entre le Sénégal et l'Algérie.
Voilà, l'Algérie mène sur le Sénégal 1-0. Quelle est la lecture que vous faites déjà de cette demi-heure de jeu?
Le premier enseignement que je retiens, c'est qu'une finale, comme on le répète toujours, de 3 minutes, c'est inévitable. Les Algériens l'ont compris quand ils ont démarré le match à 3 à l'heure. Et d'ailleurs, à l'image de leur compétition, ils n'ont pas laissé du temps du tout aux Sénégalais, qu'ils ont surpris dès la deuxième minute avec ce but. Et après le but, justement, ils ont un tout petit peu accusé le coup car les Sénégalais ont commencé à pousser. Revenir très vite à la marque, mais comme également depuis le début de la compétition, les Sénégalais ils pêchent un tout petit peu dans les transmissions, surtout sur la zone offensive. Ils sont en train de pousser, mais ils sont encore très très loin de stabiliser ces Algériens et surtout ils s'exposent également au contre d'une très bonne formation algérienne qui est les différentes zones sur le terrain. Donc c'est une finale très difficile. C'est une finale qui se joue à 100 à l'heure, à un très vite justement de ce dernier match de Coupe de la Ligue des Nations. Et je crois qu'il y aura encore des buts, avant la fin de cette mi-temps, d'ici la deuxième période, il y aura encore des buts. Et donc voilà, ça sera disputé jusqu'au bout. On ne doit pas se contenter que ce but soit 1-0.
Voilà, nous sommes à la 34e minute déjà et Kouyaté est toujours au sol. Apparemment, les soigneurs sénégalais essayent d'intervenir. Comment se fait-il que le numéro 9 algérien trompe la vigilance de la défense sénégalaise et du gardien de but, parce que apparemment tout le monde pensait que le ballon allait sortir.
Et oui, c'est ce qui arrive lorsqu'on ne rentre pas directement dans le match, hein. C'est une erreur de concentration simplement, oui, qui ne doit malheureusement pas arriver lors de la finale de Coupe d'Afrique. Mais bon, elle est arrivée, hein. Vous avez vous-même vu sur les images comment le gardien de but et l'un de ses défenseurs centraux est en train de se parler un tout petit peu sans vouloir sur ce but. C'est une erreur qui est arrivée car l'Algérie est mieux entrée dans le match que le Sénégal qui a été surpris sur ce but. Ça arrive, c'est le football, c'est là justement, donc voilà.
Merci Thierry, bonne soirée à Kinshasa et continuez de suivre ce match qui est très intéressant avec les dribbles de Sadio Mané qui essaie de se démarquer ce soir par rapport à des rencontres antérieures. Et cette finale a aussi un goût particulier pour les deux sélectionneurs, Jamel Belmadi de l'Algérie et Aliou Cissé du Sénégal. Tous deux nés en 1976, à un jour d'écart, Belmadi à Champigny et Cissé au Sénégal, avant de rallier la banlieue parisienne à l'âge de 9 ans. Plus tard, Belmadi est parti se former au Paris Saint-Germain, Cissé à Lille. Cette opposition continue, cette fois-ci en terre africaine et en tant que coach. Jamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie.
C'est une ironie du sort extraordinaire de se retrouver, nous, deux enfants de Champigny-sur-Marne. On a eu l'habitude de jouer l'un contre l'autre dans les catégories de jeunes. C'est vrai que c'est exceptionnel de se retrouver, nous deux, à la tête de nos équipes nationales respectives et de jouer cette finale. Donc c'est vrai que ça a un goût particulier.
Voilà, c'était le sélectionneur de l'Algérie qui, pour l'instant, mène sur son ami Aliou Cissé. On est à la 36e minute, le score restait toujours inchangé. À toi, Claire.
Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup pour ce journal de la CAN. Alors, également dans l'actualité, les Algériens sont suspendus évidemment à cette finale, mais ils sont également descendus dans la rue aujourd'hui pour la 22e semaine consécutive, après la grande prière du vendredi au milieu d'un impressionnant dispositif policier. De très nombreux manifestants ont afflué comme chaque semaine aux alentours de la Grande Poste à Alger. Au Soudan, l'armée et les meneurs de la contestation ont conclu cette semaine un accord crucial sur le partage du pouvoir. Toutefois, une rencontre prévue aujourd'hui pour discuter des points en suspens a été reportée. Abdourahmane Dia.
Un dirigeant de la contestation a indiqué qu'il faut davantage de consultations pour parvenir à une position unifiée. Omar El Deguir a souligné qu'il y avait des réserves exprimées par trois groupes rebelles sur l'accord et n'a pas donné de nouvelles dates pour la poursuite des discussions. La contestation et le pouvoir militaire sont parvenus mercredi à un accord sur la formation d'un gouvernement souverain composé de 5 militaires et 6 civils qui va diriger pendant un peu plus de 3 ans la transition. Quelques questions doivent être résolues avant l'accord final. Il s'agit principalement de l'immunité pour les généraux. Le conseil militaire insiste pour que les représentants de l'armée dans le futur conseil souverain bénéficient d'une immunité totale dans les dossiers liés à la répression des manifestations. Les membres de la contestation s'opposent catégoriquement à cette demande, évoquant simplement la possibilité d'une immunité temporaire limitée au temps de leur mandat dans l'instance de transition.
En Éthiopie, 4 personnes ont été tuées par balle à Hawassa, dans le sud du pays. La région est le théâtre de manifestations depuis jeudi dernier de membres de l'ethnie Sidama qui réclament la création d'une région autonome. Jacob Zuma refuse de coopérer avec la justice. L'ex-président a mis fin aujourd'hui à sa coopération à une vaste enquête sur la corruption en Afrique du Sud pendant son mandat. Il se dit victime de parti pris. Bagassi Koura.
Zuma, âgé de 77 ans, témoignait depuis lundi devant la commission chargée de faire la lumière sur les nombreux scandales qui ont éclaboussé sa présidence de 2009 à 2018 et qui l'ont contraint à la démission il y a un an et demi. Mais mercredi, la commission avait suspendu l'audition de l'ex-président, son témoin numéro 1, qui s'est plaint du ton, à ses yeux trop insistant, des questions qui lui sont posées. Il devait être entendu ce mercredi pour une dernière journée si un compromis avait été trouvé sur les modalités de l'audience, ce qui ne s'est pas produit. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire que nous ne participerons plus à cette procédure, a déclaré un des avocats de Zuma, Moussi Sikakan, devant la commission d'enquête siégeant à Johannesburg. Sur le fond, l'ex-chef de l'État a nié toute implication dans les affaires de corruption citées. Le juge président de la commission, Raymond Zondo, a regretté le retrait de l'ex-président et défendu la procédure en cours.
Au Nigeria, 6 personnes sont portées disparues depuis une attaque de convoi hier sur la route entre Maïdougouri et Damasak, dans le nord-est du pays. L'ONG Action contre la faim a précisé qu'un de ses employés fait partie des personnes portées disparues.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Téhéran a catégoriquement démenti aujourd'hui les propos de Donald Trump selon lesquels un navire américain a détruit un drone iranien. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Allégation délirante et sans fondement a réagi vendredi le porte-parole des forces armées iraniennes, le général Abdul Fazl Shekarchi. Tous les drones sont bien rentrés à leur base, a-t-il ajouté. J'ai peur que l'US ex-boxeur ait abattu un de leurs propres drones par erreur, a écrit pour sa part le ministre adjoint des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, sur Twitter. Les gardiens de la révolution indiquent qu'ils vont publier bientôt des photos de l'engin américain prises par un de leurs drones. Le président des États-Unis avait affirmé qu'un navire américain a détruit au-dessus du détroit d'Ormuz un drone iranien qui s'approchait dangereusement et que l'appareil a été détruit immédiatement. Le Pentagone a fait état d'un incident survenu entre le bateau américain et un drone qui s'était approché à une distance menaçante sans préciser à qui appartient cet appareil sans pilote.
Et pour être tout à fait complet, Donald Trump a rejeté aujourd'hui les dénégations de Téhéran sur la destruction de ce drone iranien au-dessus du détroit d'Ormuz, assurant n'avoir aucun doute à ce sujet. Une vague de chaleur avec des températures jusqu'à 43 degrés Celsius s'est abattue sur l'est et le centre des États-Unis. Les autorités ont lancé des alertes à la canicule, conseillant aux Américains de rester au frais pour se protéger face à ces chaleurs excessives. Les précisions de Dilidico.
Ce mois de juin a été le plus chaud ces 140 dernières années, selon l'administration américaine des océans et de l'atmosphère. L'agence ajoute qu'il est très plausible que le mois de juillet suive la même tendance. De vendredi à dimanche, l'Est et le centre des États-Unis vont connaître des températures pouvant atteindre 43 degrés Celsius. Les autorités exhortent les habitants à rester au frais, ne pas laisser les enfants dans les voitures et s'assurer que les personnes âgées ou ayant des problèmes de santé ne sont pas exposées à cette vague de chaleur. Bill de Blasio, le maire de New York, appelle à prendre très au sérieux ces alertes à la canicule. Jim Hayes, de l'Agence météorologique nationale, dit que le plus préoccupant, c'est la combinaison de chaleur extrême et d'humidité. La fraîcheur devrait cependant revenir tard dimanche pour faire descendre le mercure à des températures plus raisonnables, entre 29 et 32 degrés Celsius.
Le président Donald Trump a attaqué la couverture médiatique qu'il a qualifiée de « dingue ». Les cris proférés par une centaine de ses partisans contre une élue démocrate d'origine somalienne, M. Trump a dénoncé l'alliance malsaine des médias avec ses opposants démocrates. En Chine, au moins 2 personnes ont été tuées, 18 autres blessées et 12 ont disparu dans une énorme explosion d'une usine de gaz dans le centre du pays. Et puis en Grèce, un séisme de magnitude 5.1 a secoué Athènes, entraînant des dégâts et des perturbations, mais n'a fait aucune victime.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Le président Donald Trump est sous le feu des critiques pour avoir attaqué verbalement 4 femmes démocrates élues au Congrès. La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, a voté un texte condamnant certains commentaires du président qualifiés de racistes, ce qui relance un débat animé sur la race et l'immigration. Reportage Jim Malone, récit Blanche Sanou.
Devant une foule enthousiaste en Caroline du Nord, le président Trump a lancé une nouvelle attaque contre 4 démocrates au Congrès, toutes des femmes issues de la minorité.
Mais ces idéologues de gauche voient notre pays comme une force du mal. La façon dont ils parlent si mal de notre pays. Ils veulent démolir notre constitution, affaiblir notre armée et éliminer les valeurs qui ont construit ce magnifique pays.
Devant l'Assemblée, le président a ciblé Ilhan Omar, membre du Congrès du Minnesota, et le public a réagi devant ses propos en scandant. Selon les sondages, la victoire du président Trump en 2016 a été stimulée par le soutien des électeurs blancs de la classe ouvrière. Mais beaucoup de démocrates, y compris le membre du Congrès Tom Malowski, pensent que le président frôle la catastrophe en essayant d'obtenir un soutien basé sur le ressentiment racial.
Ces mots ne sont pas que des mots. Ils sont comme de l'essence qu'on pulvérise sur des étincelles dans des esprits perturbés.
Une accusation dont le président a réfuté, tout en continuant à attaquer violemment les 4 élus démocrates, en les exhortant à quitter le pays si elles étaient malheureuses. Même si certains républicains se sont plaints de ces attaques, beaucoup d'autres soutiennent le président, y compris le sénateur John Kennedy.
Ce n'est pas la Chine et ce n'est pas la Corée du Nord. C'est l'Amérique. Ici, vous détestez notre pays. Vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez.
Beaucoup d'élus démocrates dénoncent ouvertement les opinions du président Trump. Parmi eux, le député Dean Phillips.
Si le racisme devient une question partisane dans ce pays, cela nuira au travail qu'ont accompli nos fondateurs. C'est mal agir envers notre Constitution et envers toutes ces personnes pour qui l'Amérique représente un chiffre.
Les remous politiques de ces dernières semaines présagent, selon certains analystes, une campagne présidentielle des plus instables.
La mission du programme spatial américain, au cours de laquelle l'homme a posé ses pieds sur la Lune pour la première fois, est racontée en Guinée aussi bien par les anciens, témoins de l'événement, que par des jeunes qui nourrissent de l'espoir pour le monde. Notre correspondant, Zakaria Camara, est allé à la rencontre des Guinéens à Conakry. Écoutez ce qu'il raconte.
Le grand succès d'Apollo 11 reste inoubliable pour Paul Albert Camara. Le septuagénaire raconte son souvenir des premiers pas de l'homme sur la Lune.
J'étais instituteur à Fangui, un vieux qui est voisin à l'école où j'ai enseigné. Je ne sais pas s'il vit encore. Il s'est prononcé ouvertement que c'est faux. C'est faux de cesser de raconter ça. Un homme ne peut pas poser son pied sur la Lune de Dieu. C'est pas vrai.
L'homme sur la Lune, comment ? s'interrogeaient certains Guinéens selon l'ancien instituteur. D'autres comme Adiato Rodo, cette grand-mère qui faisait partie des 600 millions de personnes qui ont suivi l'événement, avait un sentiment de fierté.
Je faisais ma formation militaire à ce moment, mais j'ai bien suivi l'atterrissage de cet engin-là. Quand l'engin a atterri, ils ont ouvert la porte, donc quand il est sorti, le commentateur a dit, il dit oui, pour la première fois, l'homme a mis son pied sur la lune. J'étais très jeune en ce moment, mais j'étais fière.
À 72 ans, Elhadj Sékou Mamadi raconte avoir suivi le programme spatial américain à Dakar. Il nous explique que lui avait une autre explication de la mission.
Mon ressentiment, c'était l'exploit extraordinaire de l'homme. Vu la force de l'attraction terrestre sur les corps en chute libre, vu la propulsion de la fusée pour atteindre la Lune et que l'homme puisse sortir de la fusée pour marcher sur la Lune. Quand Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune, ça a été un exploit extra-humain.
Dans la capitale, les jeunes qui ont accepté de s'exprimer au micro de la Voix de l'Amérique parlent d'espoir pour l'humanité.
C'est vraiment une avancée technologique, c'est vraiment une avancée pour l'évolution du monde actuel et du futur aussi.
La Lune qu'on voit tout petit dans l'espace comme ça, donc qu'un homme monte là-bas, ça a été frappé ma conscience comme quoi l'homme est capable de tout.
Ça, c'est une fierté déjà d'explorer l'espace au-delà de notre planète. Et déjà, ça apporte un plus dans le développement et dans les avancées des recherches.
Apollo 11 a suscité la curiosité chez de nombreux jeunes Guinéens. Ils veulent maintenant savoir si un jour, l'homme pourra vivre sur la Lune. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. Les États-Unis célèbrent ce 20 juillet 2019 le 50e anniversaire de la mission Apollo 11 sur la Lune. Un événement qui a bouleversé le monde et les Tchadiens s'en souviennent comme si c'était hier. André Komadjengar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis Djamena.
L'expédition spatiale de 1969 a été un événement majeur pour toute l'humanité. Les Tchadiens se rappellent de cet homme dont les premiers pas sur la Lune ont bouleversé le monde. Pour beaucoup, c'est un miracle. L'Aldim Narcisse avait à l'époque un an et demi. Aujourd'hui, il est journaliste à N'Djamena.
Moi, je n'ai pas vécu l'événement, mais j'ai appris à travers la presse, surtout les journaux qui ont largement fait écho de cet événement. Parce que Neil Alden Armstrong, il est connu pour sa célèbre phrase intitulée « C'est un petit pas pour un homme, mais c'est un bond de géant pour l'humanité ». Cette phrase-là est encore d'actualité aujourd'hui.
Bernoudi Sosten, un autre jeune Tchadien, a appris cette histoire à l'école dans les années 80. Aujourd'hui, il est directeur artistique du festival Le Souffle de l'Harmattan.
Moi, c'était à l'école primaire. On a un livre intitulé L'école africaine. C'est dans ce livre-là qu'on a un texte qui parle de ce homme dans les années 80, début des années 90. Mais cela ne m'a pas dit grand-chose. Mais avec le temps, on a compris que c'est l'exploit de la science qui essaye de percer ce qui est insondable. Et chez nous ici, l'année où cet homme a marché sur la Lune coïncidait avec une épidémie de conjonctivite au Tchad. Et ceux qui ont cette maladie, on les appelle Apollo. Donc de façon vulgaire, on appelle ça même jusqu'aujourd'hui.
Docteur Midomo Kolandi, ancien doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université de N'Djamena, se rappelle encore de l'exploit.
En 1969, j'étais en sixième. Nous avions en cette période un professeur, un américain qui s'appelle Hauska. Il nous a fait la projection au moment où Armstrong naît et allait sur la Lune. On l'a vu. Il a mis pied sur la Lune, il a tenté une première fois, une deuxième fois, troisième fois. Il a senti que c'était solide. On l'a vu planter le drapeau américain. Pour nous, c'était une curiosité. Le côté scientifique, on ne l'avait pas encore senti. Je veux te rappeler qu'en 1969, lorsqu'on lançait l'appareil, il y a un Tchadien qui a été invité officiellement. Il s'appelle Maloum. Donc, ça a démontré la puissance américaine dans le monde.
Pour Ngarwande Djarma, infirmier diplômé d'État à la retraite, cet événement l'événement bouleverse le monde religieux.
L'événement, on l'a vécu, surtout avec la tertiférie religieuse, on a eu beaucoup de problèmes. Pour eux, de la lune, on ne peut pas atteindre. Chaque fois que la science découvre quelque chose, la religion s'inquiète. Parce que la science est devenue démentie pour elle. Alors que parmi les religieux, personne n'a rencontré un dieu au cours des repas. Nous, on a cru. S'il y a un Africain qui a siégé comme président des États-Unis, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, un Africain soit sur au-delà même de la lune.
Aller au-delà de la lune, c'est aussi le souhait de Bernoudi Sosten, directeur artistique du festival Le Souffle de l'Harmattan.
Le monde est tellement en concurrence que tout ce qui est africain est relégué au second rang. Je m'en vais vous dire, tout le monde, par exemple, a été découvert par un Tchadien. Mais aujourd'hui, ce Tchadien, qui le connaît? On affiche le professeur Michel Bruno. Oh, Michel Bruno faisait partie de l'équipe paléontologique, mais c'est pas lui qui a découvert Toumaï. Non, c'est dommage, mais moi je crois que les Noirs sont capables de beaucoup de choses. Un jour, ils peuvent non seulement faire une descente sur la Lune, mais pourquoi pas sur le Soleil.
André Kodimadjingar Ndjamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM. C'était donc il y a 50 ans, les trois astronautes américains de la mission Apollo 11 atteignaient la Lune. Un anniversaire célébré en grande pompe aux États-Unis. Un demi-siècle après, il y a des doutes sur la viabilité du programme spatial sans une drastique augmentation du budget de la NASA. Nous faisons le point avec Arzuma Compaoré.
Il y a 50 ans, la mission sur la Lune était à deux doigts d'échouer à cause d'un problème informatique, comme en témoignent ces échanges entre Houston et les astronautes. Neil Armstrong a alors pris le contrôle manuel du vol afin d'éviter les rochers sur la zone d'atterrissage, brûlant ainsi plus de carburant que prévu.
Quel est le niveau du carburant? Est-ce un bon endroit?
Des avertissements, 60 secondes de carburant, 30 secondes, avec moins de 20 secondes de carburant, jusqu'à ce que l'aigle allunisse. Après le pas de Neil Armstrong sur la Lune, a suivi l'un des moments les plus angoissants de la mission pour l'astronaute Mike Collins, resté en orbite lunaire dans la capsule principale Columbia, seul moyen de transport pour revenir sur Terre. Il n'y avait plus qu'une seule fusée à leur disposition, et ils craignaient que cela ne fonctionne pas.
Nous savions que s'ils ne pouvaient pas redécoller pour une raison quelconque, je n'aurais rien pu faire. Columbia n'avait aucun train d'alunissage. Je n'aurais pas pu descendre pour les secourir. Je ne voudrais pas être à la place de la personne qui a laissé deux astronautes sur la Lune. Cela ne m'aurait pas plu du tout.
En fin de compte, celui qui semblait être le plus heureux de l'équipage n'était pas déçu lorsque les trois héros sont revenus sur Terre, sains et saufs.
Il y a tellement de choses qui auraient pu mal tourner. Et pourtant, tout s'est bien passé. C'est ce que je garde de tout ceci. Tout s'est bien passé.
Joshua Stoff est conservateur au musée du berceau de l'aviation.
Le 50e anniversaire nous rappelle cette chose incroyable qui s'est produite en 1969. Ils ont construit un vaisseau spatial et une fusée qui ont amené les humains dans un autre monde et cela a créé un moment d'unification de l'Amérique et d'inspiration pour le monde. Si nous pouvons aller sur la Lune, cela veut dire que si nous voulons vraiment que quelque chose se réalise, nous pouvons le faire.
Après 1972, date de la dernière mission Apollo, seuls des robots sont retournés sur la Lune. En 2017, Donald Trump a relancé la conquête de la Lune et de Mars, qui prévoit le retour des Américains, dont la première femme, sur la Lune. La NASA est en train de construire la fusée la plus puissante de tous les temps, le Space Launch System, et une capsule baptisée Orion pour le retour des humains sur la Lune en 2028. Quant à Mars, une mission habitée est prévue dans les années 2030.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Cheikh Tiro. À la console, Justin Twait. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, VOA Afrique, et notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous. Tout de suite, le RM Show présenté par Roger Muntou. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bienvenue à bord.